Salut les marques, salut les smart et bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Chaque semaine, nous analysons ensemble les shows de la WWE. Aujourd'hui, direction le show rouge Monday Night Raw du 1er mars. Je suis Irem et pour m'accompagner dans cette analyse haute en couleur, j'ai avec moi Tonton Chris. Salut Tonton.
Hola el patron, hola el pueblo del catch up, ¿cómo está?
Bien, ça y est, hein, chaque semaine on se retrouve, toi et moi, autour d'un bon Monday Night Raw.
Oui, un gros Monday Night Raw dense, lourd, avec beaucoup de choses qui avaient été annoncées au préalable. Et ouais, il va y avoir de quoi dire sur ce show rouge.
Oui, d'ailleurs, il ne faudra pas qu'on oublie de partager les tops et les flops de nos camarades de classe.
Tout à fait.
Donc, n'hésite pas à me prévenir si j'en fais l'impasse. Mais voilà, sinon, ils vont encore bouder dans leur coin. Comme quoi, nous ne portons pas leur avis aux oreilles de nos auditeurs qui sont de plus en plus nombreux. Car Tonton Chris a repris en main le compte Twitter de Catch Up.
Oula.
Donc, je vous invite à nous suivre sur Twitter. Vous allez découvrir Tonton qui découvre les réseaux sociaux. Tonton qui enfile son costume des millennials.
Voilà, Raphaël sur Instagram, Tonton sur Twitter. Attention, ça va booster dans les réseaux sociaux pour Catch Up.
Et IRM qui compte les billets. Pas mal, ça.
Les dollars pakistanais. Voilà, bon, ça n'a pas fait notre richesse jusqu'à présent, mais on s'y tient quand même.
C'est une richesse de cœur. Bon, ce soir, en parlant de richesse, il y aura de l'or en jeu. De l'or en jeu. Et surtout, c'est le retour d'un homme qui avait brillé par son absence la semaine dernière. Tu étais triste.
Ah oui.
Ça manquait de kilt la semaine dernière. Aujourd'hui, il y a du kilt, il y a du poil, il y a du whisky, il y a du McIntyre, puisque c'est l'ancien champion WWE, Drew McIntyre, qui a les honneurs d'ouvrir le show. Mine de rien, c'est pas anecdotique, hein. Le mec il a perdu son titre, on l'a pas vu la semaine dernière, mais c'est quand même lui qui fait l'opener. Il nous explique qu'il y a beaucoup de mecs qui... il a dû se battre à fond ces dernières semaines. À la chambre d'élimination, il a détruit tout le monde. Donc tous les mecs qui se sont mis en travers de son chemin, eh ben, il s'en est débarrassé. Et Sheamus, qui a l'air d'en avoir après lui, il n'y a pas de problème. Il compte bien se débarrasser de la menace irlandaise dès que possible pour pouvoir récupérer son titre.
Hein,
il veut récupérer l'or, il veut ramener l'or en Écosse, que ce soit le Miz ou Bobby Lashley, puisque tu nous l'as dit juste avant, il y a du lourd ce soir, il y a un match pour le titre de champion entre Miz et Bobby Lashley, et Drew McIntyre compte bien affronter celui qui aura la ceinture en or autour de ses hanches. Le Miz débarque, alors ça nous a fait séquence porte de saloon, hein, comme le dit... Giscal, ils sont tous arrivés les uns après les autres. Il arrive avec Morrison, il est fringué comme un prince, comme une star, hein, c'est le A-lister. Et surtout, il lui dit, écoute, Drew, il essaie de mettre Drew dans sa poche, en fait. Et, écoute, effectivement, voilà, il y a eu ce deal qui a été fait, mais la vraie menace, c'est pas moi, la vraie menace, c'est Bobby Lashley, donc si on faisait une équipe, tous les trois, là, on serait pas mal. Miz, Morrison et McIntyre, the three amigos, Morrison qui a placé une petite blague là. Donc il propose une alliance, hein, tout simplement, un peu pour protéger ses arrières. Sur ce, c'est MVP qui arrive, qui nous explique, n'oubliez pas que ce soir, Bobby Lashley, il a un match pour le titre, et ce sera dans une heure, donc rebelote. Comme on sait que vous avez kiffé les ultimatums et les comptes à rebours, MVP nous a foutu un petit compte à rebours. Je crois pas qu'il y ait pas de compte à rebours cette fois-ci, mais c'était rendez-vous. Ah oui, il donnait rendez-vous à 9h.
Oui, voilà, ouais, il donnait des rendez-vous dans des heures précises.
9h, co-test, ici et maintenant.
Donc, East Central.
Oui, c'est East Central Time. Donc c'était au moins là, c'était clair et précis pour le match. On parle de l'Irlandais. Sheamus débarque. Il va voir. Il se débarrasse un peu de Miz et il commence à se prendre la tête avec McIntyre. Et le match commence assez rapidement. Finalement, on aura en opener un match Sheamus versus McIntyre. Mais avant de parler de ce match, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit retour là de l'Écossais, de sa première interaction avec le porteur de titre?
Bah écoute, c'était plutôt bien, surtout du fait que voilà, il y a eu une semaine pour digérer, pour avaler la défaite. Il est de retour direct, il revient dans l'opener, il se replace tout de suite dans la course et dans la title picture, dans le main event, parce qu'il n'y a pas à chier. Hein. C'est quand même quelque chose tout de suite, l'apparition du McIntyre. Tout l'opener est plutôt sympa, voilà, toute la promo est plutôt bien foutue. Miz et Morrison sont bien dans le truc. Le Miz, bah voilà, il est champion. On a le former champion. On va avoir après avec la musique du Hard Business qui débarque. Il y a de plus en plus dans ce segment du monde qui apparaît les uns à la suite des autres. Puis ça nous promet direct de nous envoyer vers un Drew McIntyre Sheamus en opener catchesque. Donc sur le coup, je me dis, ça commence plutôt pas mal ce rôle là. C'est plutôt intéressant. Alors. Je voulais partager avec toi, mon bon IRM, quand même, ces quelques statistiques concernant notre ami Drew McIntyre.
Oh, voilà, il est plus
champion, donc on peut faire le bilan.
Calmement.
Il aura comptabilisé 298 jours de règne cumulés. Quoi. Voilà. 202 la première fois et 96 la deuxième. Ce qui est pas mal, ce qui en fait. Ça le met à la 18e place du classement des plus longs règnes de champion de la WWE cumulables. Donc tu vois, avec ses 290 jours, il va dépasser des Undertaker ou des Seth Rollins et même du Daniel Bryan. Tu vois. Donc c'est du lourd hein, quand même.
Ouais. Ah oui, non, il a eu une grosse année. Hein.
Alors après, ça peut porter à débat parce qu'il y a la note moyenne de ces matchs au Wrestling Observer News, c'est newsletter, c'est 6,71, ce qui reste quand même une belle note. Hein. Et enfin, on va terminer avec...
C'est pas terrible quand même. Hein.
Ouais. C'est pour ça que je disais d'entrée que ça se discutait, quoi. Et au final, pour être complet jusqu'au bout, bah, durant ces deux règnes cumulés, il aura gagné 23 matchs, Raw, SmackDown et Pay-Per-View inclus, et il en aura perdu 5. Contre le Miz, contre Sheamus, contre Roman Reigns, et deux fois contre Randy Orton. Voilà, ça c'est le bilan du bel homme, c'est le bilan du psychopathe écossais. Moi je dis, bon baiser de Glasgow.
Ouais, non, c'est solide. Alors là, effectivement, il a un beau portfolio là du coup, parce qu'effectivement, bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait, il avait un peu roulé sur tout le roster. Très peu de défaites, en général dans des matchs de gala ou dans des situations un petit peu compliquées, on va dire, où il était difficile pour lui de vraiment s'en sortir. C'est vrai que là, pour autant, il revient et t'as entendu ce qu'il dit. Il dit le mec, il a pas passé justement tout un an quasiment à choper le titre au Performance Center où il y avait personne en plein Covid là, quand tout le bordel est arrivé. Pour finalement s'écrouler à 4 semaines de WrestleMania. Il veut pas récupérer le titre. Il n'a pas fait tout ce travail pour s'écrouler juste avant la ligne d'arrivée. Ça, j'ai bien aimé, effectivement, qu'il dise ça. J'ai beaucoup aimé aussi le Miz hein, qui a joué, qui commençait à se plaindre et qui expliquait que c'était lui la victime, qui essayait de se mettre Drew McIntyre dans la poche.
Et puis surtout cet opener, il nous annonce avec la présence du Miz, de MVP, etc., que ça va être le fil rouge de notre soirée. Et comme tous les bons vieux anciens, j'aime bien les fils rouges dans les shows.
Ah voilà, ça je ne peux que te rejoindre là-dessus. Ça fait du bien, y compris dans les pay-per-view. On l'a bien vu à Elimination Chamber, il y avait ce petit fil rouge en arrière-plan qui finalement a porté ses fruits et qui a eu un impact énorme sur la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Le match Sheamus contre Drew McIntyre qui a suivi, écoute, je pense que les mecs doivent s'adorer pour autant se détester dans le... Tu peux que t'aimer pour te mettre des coups comme ça dans la tronche, pour te taper dessus à un point où les mecs, ils étaient rouges et qu'ils se sont explosés la tronche. C'était presque pas inconfortable à regarder, mais c'était tellement violent, les coups qui se mettaient dans la tronche, que tu te disais, mais... Enfin, Sheamus étant connu pour ne pas se retenir, ils sont plusieurs à dire, je suis entre les cordes contre Sheamus, je le sens passer pendant une semaine. Alors je peux te dire que là, Sheamus, vu que c'était son copain en face, un gros gaillard qui fait qui peut rendre les coups aussi, ils s'en sont donnés à cœur joie. Les coups de genou qu'il a mis dans la mâchoire de Drew McIntyre, c'est impressionnant. Et quand Drew McIntyre a balancé le guerrier celtique sur la table des commentateurs et que Sheamus il a atterri, alors, je sais pas, le dos là ou les côtes en plein sur l'angle de la table des commentateurs, là je me suis dit les mecs ils vont pas réussir à se relever là, c'est pas possible.
C'était un superbe match. Écoute, franchement, il y a une super alchimie entre les deux, comme tu l'as dit là. Voilà, les mecs se connaissent parfaitement, c'est des super potes dans la vie. Chez eux, c'était le témoin de mariage de Drew. Enfin, voilà, quoi, c'est vraiment des mecs voilà, qui se suivent sur le circuit européen, ensuite à la WWE, qui ont un parcours assez différent finalement à la WWE, mais quel palmarès, j'ai envie de dire, quel palmarès. C'est quand même quelque chose. Alors, avoir ces deux bestias-là dans un match qui va durer 22 minutes, quoi, en opener de Raw.
22 minutes.
Je n'en revenais pas. Je me suis dit, mais là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe à Raw? Qu'est-ce qui leur arrive? Mais c'est quoi? C'est la folie, là. Un match, 22 minutes 50 exactement, mon bon Yaman. Que du bonheur, non?
Ah ouais, que du bonheur. Et puis, là, le petit white noise, là, depuis le haut de la troisième corde. C'était bien, bien costaud. Et puis ce final, donc, qui a vu Brock Kick versus Claymore.
Eh oui, carrément.
Ah, l'image, superbe. Superbe, avec bah, le Claymore qui passe, contrairement à Brock Kick. Et donc la victoire de Drew McIntyre. Sheamus, enfin, moi qui suis... Voilà, j'ai envie de voir cette rivalité continuer. Sheamus, il est au top et j'étais ravi qu'on nous offre cet opener. C'est même limite trop beau pour être vrai. Tu te dis, ce match-là, il ressemblerait. Est-ce que c'est un match qui annonce une suite ou est-ce que c'est un match qui annonce une fin?
Oui. Oh non, pour moi, c'est un match qui annonce une suite, quoi. De toute façon, c'est loin d'être terminé cette affaire. Là, potentiellement, dans le main event, il peut y avoir plusieurs mecs à l'heure actuelle, là, dont Sheamus et Drew McIntyre en font partie. Écoute, ce match, moi, ma première réaction, ça a été s'il n'y avait pas eu tous les événements de ce Raw qu'on va vous narrer, peuple de catch-up, au fur et à mesure, je l'aurais mis direct dans le main event d'un Raw classique, quoi. Pour moi, c'était un match digne d'un pay-per-view.
Ah oui.
D'ailleurs, j'en avais même fait un petit sondage sur Twitter, quoi, pour demander à nos tweetos catch-uppers ce qu'ils en pensaient. Et, je leur demandais, en fait, si c'était un match digne de pay-per-view et si c'était peut-être le meilleur match de weekly qu'il y avait eu à Raw depuis le 1er janvier 2021. Le peuple de catch-up est d'accord à 66%. Et il est fondamentalement hésitant à 33%. Par contre, tout le monde, personne n'est pas d'accord.
Ça, c'est
voilà. Il y a 0%.
Ça, on dirait une annonce du gouvernement. Personne n'est pas d'accord.
Voilà.
Comprends qui voudra. Hein, voilà, démerdez-vous avec ça.
Un superbe combat. Si vous n'avez pas le temps d'aller voir Raw, etc., faites-vous les highlights de ce Sheamus versus Drew. Moi, je dis, ça appelle une suite et une belle suite.
Ouais. Malheureusement, la suite directe de cet épisode de Monday Night Raw était un petit cran en dessous. Naomi, voilà, elle s'ambiance là avec sa musique. Il y en a Jax qui vient un petit peu gâcher l'ambiance. Elles ont un match, toutes les deux, juste après. Naomi, Nia Jax chope Naomi parce qu'elle était en train de courir autour du ring, je crois, et elle lui place une prise de l'ours et Samoan Drop, Shock Slam, puis emballé, c'est pesé, quoi, et puis voilà, il y avait rien à voir, circuler, hein.
Ouais, non,
Baszler et Lana étaient là.
Ouais, on peut dire ça, elles étaient là. Mais voilà. C'était super pauvre, ça a duré 2 minutes 20. On a juste donné, il fallait la victoire pour les championnes parce qu'elles affrontaient à NXT Raquel Gonzalez et Dakota Kai. Donc il y avait un challenge beaucoup plus sérieux qui les attendait à NXT. Donc aucune surprise sur l'issue du combat et sur aussi la durée d'ailleurs.
On revient à notre fil rouge. Bobby Lashley, il est en sueur, il est prêt, il est surexcité, il veut démonter le Miz. Il est au taquet, mais personne n'arrive, malgré la musique du Miz. Il n'est pas là, et le Miz, pourquoi? Parce que le Miz, il a des crampes d'estomac. Le Miz, il a une gastro. Il n'est pas bien. Il a bouffé un truc qu'il ne fallait pas. Je ne sais pas ce qu'il y avait à la cantine le jour-là, mais ce n'est pas passé.
Les tacos de Rey Mysterio.
Ah oui, mais oui, mais t'as raison, mais oui, c'est les tacos de Rey Mysterio, évidemment, on les connaît, les tacos de Rey Mysterio, c'est trop...
Il y a déjà eu nombreuses histoires à cause de ces tacos.
les tacos diaboliques du Mexicain qui ont attaqué la rate directement du vice, là, qui se tord de douleur. Il dit, je suis pas prêt, je suis plus pas prêt. Alors, Bobby Lashley, il arrive, il va le choper, il lui fait, écoute, dans ce cas-là, on se retrouve à 10h. Ah ben c'est Adam Pearce, hein. Adam Pearce arrive, fait, écoute, Miz, t'es gentil, mais tu vas quand même défendre ton titre. Ce sera pas à 9h, ce sera à 10h. East Central Time. Donc t'as une petite heure de plus. Bon. J'aurais aimé que Bobby Lashley, tiens, il chope le bise et qu'il essaie de l'emmener jusqu'au ring, toi. Il était un peu trop gentil, là. Il aurait dû le démonter un peu plus.
Ouais, il aurait pu, ouais, pourquoi pas, ouais.
Ouais. Mais voilà, bon, écoute, ça c'est notre petit fil rouge, toi qui aimes les fils rouges. Bah, il y a un fil rouge à base de gastro-entérique, hein, et de brûlure d'estomac. C'était plutôt une brûlure d'estomac, quand même. Pour la gastro, je sais pas, on n'a pas eu toutes les images. Je sais pas ce que tu penses de la situation de Braun Strowman à l'heure actuelle, mais elle se développe, et je sais pas si c'est pour le pire ou le meilleur. Puisque ce soir, Braun Strowman a un match tag team avec un partenaire mystère. On sait que la WWE aimait beaucoup, et ça faisait, le font peut-être un peu moins aujourd'hui qu'ils ne le faisaient à une certaine époque. Les partenaires mystères, les roulottes ou je sais pas quoi là qu'ils faisaient, tous les jeux qu'ils organisaient pour un petit peu épicer les configurations des matchs. Toujours est-il que ce soir, ils devaient affronter donc Hurt Business, hein, les champions, Shelton Benjamin et Cedric Alexander. Braun Strowman réplique. Oui, il n'y a pas de partenaire mystère et c'est Shane McMahon qui débarque. Genre, il commence à baragouiner des trucs. Braun Strowman n'est pas content, il dit ça craint cette histoire de partenaire mystère. Et Shane McMahon, il dit ouais, t'as des problèmes avec le corporate, quoi, avec le management. Et du coup, qu'on a des soucis avec le management, et ben, pour régler les soucis avec le management, on s'associe avec le management. Et du coup, ben, ton partenaire de ce soir, ce sera quelqu'un du management, et ce sera ni plus ni moins que Adam Pearce. Ancien catcheur, hein, quand même, Adam Pearce.
Ancien catcheur de la Ring of Honor, tout à fait.
Ah oui, il vient pas de nulle part. On l'a déjà vu face...
La NWA aussi, je crois.
Bah ouais. Il va toujours un petit peu à la salle quand même, Adam Pearce. Mais Strowman, voilà, il fait le match, mais il refuse de faire appel à Adam Pearce pendant le match. Il balance, il détruit, hein, il roule carrément sur Cedric Alexander et Shelton Benjamin qui n'ont pas vraiment le temps de voir la lumière. Et au moment du tombé, Shane McMahon, l'insupportable fils du patron, est là, il lui dit « Mais non, fais le tag à Adam Pearce pour que ce soit lui qui fasse le tombé. » Adam Pearce, il rentre, et évidemment, il se fait avoir par une filouterie, un petit paquet là de Shelton Benjamin, et donc c'est la défaite de Braun Strowman. Et dans le regard de Shane McMahon, la déception, hein, la déception totale. Braun Strowman, incapable de gagner.
Ouais, au final, ça s'engueule, ça se chicote. Un Braun Strowman qui boude, qui veut pas faire le tag pour un match de 3 minutes 15. Donc, finalement, à 15 secondes de la fin, il va vouloir faire le tag. Et ça va se terminer avec ce roll-up de Shelton. 3 minutes 15, quoi. Voilà, donc, et quand même, le Raw Tag Team Championship, il y avait le titre en jeu. Quoi, donc, vraiment, un truc complètement escamoté. La position de Braun, j'ai du mal. Je fais partie aussi de ceux qui ont du mal avec l'alignement, finalement. Est-ce qu'il est face, est-ce qu'il est heel? C'est un petit peu délicat. Puisque là, finalement, il affronte des heels, mais il semble effectivement un peu en guerre avec l'autorité et avec Shane qui vient toujours avec le son à fond, hein, Shane. Il n'y a pas de problème. L'ingénieur son, il sait que quand Shane il arrive, il faut que les chants ils soient au taquet. On pousse tous les potards! Ouais! Ouais, bon, voilà, à part ça, écoute, je t'avoue, ça ne m'intéresse pas des masses. Je crois qu'on s'est déjà dit tous les deux la semaine dernière, comme il va y avoir deux soirs à WrestleMania, il va y avoir deux grosses cartes. Donc, on va avoir beaucoup de matchs un peu fourre-tout. Et je crois bien que Braun, il va être lancé dans une rivalité avec Shane McMahon. Quoi, ou alors, il va peut-être être avec Shane McMahon, qui sait, on va voir l'évolution d'ici WrestleMania. Mais visiblement, il semble loin du main event, Braun Strowman, pour moi, à l'heure actuelle.
C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on s'approche de WrestleMania, Braun Strowman, c'est compliqué, quoi.
C'est vrai, souvent.
On drop the ball, comme on dit. Et ce qui est terrible, c'est que la seule fois où il, Il s'est retrouvé dans le main event, vraiment le main event de WrestleMania. C'est quand il a remplacé Roman Reigns au pied levé pour affronter Goldberg.
Eh oui.
Mais limite, c'était un bug dans la matrice, cette situation. La preuve en est, un an plus tard, alors que l'année aurait pu laisser croire qu'il aurait pu retrouver sa place tout en haut, finalement, rebelote, quoi. On trébuche, Drew McIntyre parlait de pas trébucher avant la ligne d'arrivée. Braun Strowman, il fait que ça.
Ouais, on sent que c'est tiédasse avec lui, quoi. Il y a pas, c'est bizarre. Ce gars est tellement énorme et tellement monstrueux. Il est dans une shape incroyable aussi hein, en ce moment, quoi. Il faut bien le dire. Hein. On voit bien qu'il bosse et tout. Mais je sais pas, il passe à côté d'un truc. Ils n'arrivent pas à le booker comme il faudrait, quoi. En faire véritablement le mec. Enfin, il y a pas d'équivalent physique au monde. Voilà, tout simplement, la WWE, elle tient avec Braun Strowman, un mec unique. Ce gars-là, il sait pas trop sur quel pied danser. Et comme il est pas super fort en promo, pour le rendre crédible, c'est à mon avis pas avec des segments comme on a vécu là, tu vois, que ça suffira.
On va le faire parler. Là, en plus, là, sa nouvelle catchphrase de dire This sucks, it sucks, là, ça craint.
Ouais, c'est le cas de le dire. Ouais.
Il passe pour un teubé, il se fait prendre pour un teubé par Shane O'Mac, qui a raison, toi, qu'il y avait son coup de j'ai pas pu participer à la chambre d'élimination. Bah oui, mais mec, t'as jamais été champion WWE. Oh, ça craint. Tais-toi et détruis. Comme dit Raphaël, toi j'en profite, lui aussi n'arrive pas sur une opinion, il dit que le mec est un monstre physique, un talentueux catcheur, il a l'air désormais taillé en V, tu nous l'as dit, et il aurait dû à faire le con. Mais, pour le côté lumineux, la lumière, et peut-être la lumière au bout du tunnel, c'est aussi le seul à décimer à lui seul une division tag team, et il a des spots avec l'autorité, s'il déconne pas, ça peut être une belle année pour lui. Je veux le voir contre Lashley et Drew, justement.
Ah, donc ils veulent voir dans le main event. Voilà,
ils veulent voir dans le main event. Bah ouais.
ça induirait ce que je disais au début de la review sur le fait que le main event pourrait être occupé par plusieurs mecs en ce moment. Et avec Lashley, Drew McIntyre, Sheamus et pourquoi pas Braun Strowman qui viendrait s'ajouter pour un Fatal 4-Way de fou malade. Hein.
Mais oui, mais nous on veut voir ça. Il y en a marre des gringalets de 70 kilos là, d'NXT.
Ouais, mettons de la viande.
La barbecue, faut que ça sente le barbecue là, faut que ça sente le gros beefsteak. Mais si, de temps en temps là, c'est pas.
Ah bah oui, non mais moi je j'adhère.
On peut pas manger vegan du lundi au dimanche, c'est bon.
Arrêtez. J'adhère au gros Golgoth dans le main event. Hein. Alors, en ce moment, on est quand même gâté. Hein. Quand même, on a commencé l'année 2020, c'était Lesnar qui tenait le titre. Après, il y a eu grosse période Drew McIntyre, micro période Randy Orton, re-Drew McIntyre. Derrière, on a un behemoth comme l'ami Bobby Lashley. Je pense qu'on est assez gâté en ce moment dans le main event d'Euro à ce niveau-là.
Ah oui, sûr, si t'aimes les petits filous qui sautillent dans tous les sens pour faire des petites cascades et des roulades.
Si t'aimes Finn Balor et Adam Cole, c'est vrai qu'on n'est pas dans la même catégorie là. On est dans le heavyweight là.
Bon, écoute, on va parler de. Est-ce que je sais pas si on peut le considérer. C'est presque des heavyweight, hein, parce que Elias, c'est quand même un sacré. Il est costaud aussi. Hein.
Ah, Elias, je pense que c'est un heavyweight. Hein, Elias, écoute, la catégorie cruiserweight pour la WWE, c'est 93 kilos, 205 pounds. Donc, Elias, à mon avis, c'est un mec qui pèse son quintal. Hein.
C'est ça qui est dingue. On se rend même plus compte. Enfin, c'est dingue. Elias, pareil. Il est massif. Hein, attention. Il est massif. Là, sous son petit Marcel, et derrière sa guitare, et son air de hobo, là, chanteur d'opérette, il est quand même c'est costaud, quoi.
Non, c'est pas un peintre, hein, notre ami Elias. Hein, ça, là-dessus.
Il est en bisbille avec Bad Bunny. Bad Bunny, par contre, lui, c'est plus catégorie NXT, lui. Hein.
1m85, 101 kilos, Elias.
Oui, quand même.
Ouais, quand même. Il aurait fait un bon numéro 6 au rugby.
Là, je sais pas quel numéro il a. Il a le numéro de Bad Bunny, là, visiblement. Il essaie de l'avoir. Puis ça s'embrouille backstage avec Damien Priest. Ça parle. Il essaie de le faire rejoindre dans une espèce de nouveau mouvement semi-religieux autour de la musique qui change le monde. Et puis, il est accompagné par son espèce d'acolyte là, comment il s'appelle, le raciste, Jack Dexter, comment il s'appelle, Jackson Riker.
Je dis, mais oui, il veut en venir là. Ah mais ouais, mais Jackson Riker.
Le mec dit, enfin le mec détective, enfin bref, on s'en fout, le mec il a zéro charisme, il sert à rien. Il est torse nu, je sais pas pourquoi il est tout le temps torse nu, c'est complètement con. Je sais pas, il devrait lui donner un rôle, genre un Roddy ou un truc comme ça, toi, un mec qui sert vraiment à quelque chose, et juste là, enfin bref. Ça s'embrouille, ouais, ça s'embrouille. Et il y a un match entre Damien Priest et Elias. Un match qui a duré assez longtemps quand même.
Eh ben écoute, ouais, grosse surprise ce match, hein. 15 minutes 25.
Ouais. Rappelle-toi, semaine dernière, Damien Priest versus Garza, pareil, hein, même tarif. Ouais, donc, on laisse à la fois du temps à Damien Priest pour montrer l'étendue de ce qu'il sait faire, mais on lui met aussi un côté compétition face à des low-carders, quoi. Donc,
ouais.
De rien, est-ce que pour toi, c'est une bonne chose pour Damien Priest de mettre autant de temps pour battre Elias, par exemple?
Moi, le temps, finalement, m'importe peu parce que je pense que la mission de ce combat, c'était pas ça. La mission de ce combat, c'était de mettre du mainstream à mort avec Bad Bunny, quoi.
Ah oui.
Bad Bunny, aux États-Unis, il est en train de faire un buzz considérable avec ce qu'il fait à la WWE. Il semble investi. Dans backstage, apparemment, il n'y a que des félicitations et que des congratulations. Et tout le monde, il est content et tout le monde, il est heureux. Priest semble ravi également. Lui, ça lui donne une exposition énorme. Hein. On en a déjà causé la semaine dernière et on en reparle. Mais au final, il se retrouve avec un match de low mid-card, Damien Priest versus Elias de 15 minutes 25 dans un Monday Night Raw. Tu vois, donc là, je pense que clairement, l'opération, elle est complètement commerciale et que finalement, Damien Priest, on verra par la suite. Mais pour le coup, peut-être qu'il est dans le bon wagon. Peut-être que pour commencer son run dans ce main roster, c'est peut-être finalement la meilleure des choses qui pouvait lui arriver. Moi, je dis ça en plus en étant un petit peu sceptique au départ à la suite du Royal Rumble. Et finalement, je me dis que s'il réussit à obtenir 15 minutes de temps d'antenne avec le Bad Bunny qui est pris en gros plan, tu remarqueras qu'il ne se fera quasiment pas emmerder pour son titre 24-7 pendant le match. Il y aura une petite apparition, mais c'est tout, quoi. Et au final, Damien Priest, il gagne clean le match. Elias s'est un peu sorti les doigts du cul, j'ai trouvé, entre les cordes, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Et là, on a senti qu'on lui a dit ouais, non, mais là, c'est important, là, parce que Bad Bunny, il nous fait 5 millions de vues sur YouTube. Alors, vas-y, Elias, là, tu peux pas les doigts du cul. Et donc, Elias, du coup, il a bossé. Et puis, voilà, Jackson Riker, lui, ne sert à rien. Voilà, la mention que je lui donne.
Ouais. Ouais. Non, effectivement, tu l'as dit, voilà, c'était opération télé, opération spectacle pour. Pour ce segment, et tu as raison, Damien Priest est sûrement dans le bon wagon. De toute façon, quand t'es dans un wagon qui dure 15 minutes avec une star du show business qui fait parler, qui a les lumières d'Hollywood et de la télé braquées sur lui, c'est que voilà, si tu te démerdes bien, il y a moyen d'être vu. Et...
Moi, je ne connais absolument pas cet artiste. Je l'ai découvert à son arrivée à la WWE, voilà, avec son morceau avec Booker T. Donc, j'avais a priori aucune, tu vois, ni connaissance particulière de ce jeune homme. J'ai juste appris, en fait, au fur et à mesure, en regardant les infos, que effectivement la star qu'il était aux États-Unis. Et effectivement, depuis qu'il est là, il s'avère que c'est une énorme opération de com qui marche à fond.
Ouais. Donc, victoire de Damien Priest, je ne l'avais pas dit évidemment. En plus, il gagne quand même malgré tout à la fin. On revient à notre fil rouge.
Oui.
On va l'avoir ce match, il est 10h.
Ah.
C'est l'heure du match.
C'est l'heure de l'horloge.
Et là, écoute. Franchement. Alors, attends, juste avant. Alors, j'arrête tout. Arrêtez tout. Je ne vais pas me faire avoir comme la semaine dernière. La semaine dernière, tu m'as eu. Tu m'as dit, IRM, tu as oublié un segment.
Ah oui!
Un segment avec Randy Orton qui crache du pétrole. Et ben là, je ne veux pas me faire avoir. Parce que il y a encore eu un segment avec Randy Orton juste avant. Ah ouais. Mais pourquoi vous avez craché du pétrole là, ou du sang noir, ou quoi, ce liquide étrange là? Et en fait, là, c'est Il y a Alexa Bliss qui est arrivée sur un écran interposé. Je crois que Randy Orton, il regardait un écran à ce moment-là. Alexa Bliss, elle fait, voilà, elle est dans son délire, là. Elle fait un pacte avec le diable, hein, visiblement. Elle veut ramener des âmes à la vie, des âmes tourmentées. Et elle arrive, elle n'est pas seule, elle est suivie par Randy Orton. Et ouais, Randy Orton, mais un Randy Orton diabolique. Donc une version diabolique de Randy Orton qui s'adresse à Randy Orton, le vrai Randy Orton, celui qui crache du pétrole. J'espère que vous suivez. Et Alexa Bliss promet qu'il va payer pour tout ce qu'il a fait. Donc on parle là dans du mystico diabolico, on va faire des petites séances de Ouija là, en se touchant les petits doigts et se faire peur en demandant à Bray Wyatt de toquer 3 fois s'il est là. Un peu de spiritisme, petite séance de spiritisme.
Ouais, c'est ça.
T'as déjà fait du spiritisme, tonton?
Peut-être une fois ou deux dans ma prime jeunesse, ouais, pourquoi pas. Ça.
Ouais, et ça a toqué?
Ça a toqué, je me souviens plus trop, quoi.
Un gros trou noir, je sais pas ce qui s'est passé.
Voilà, dans quelle volute j'étais ce jour-là, donc je me souviens plus trop, quoi. Écoute, est un homme ambivalent, hein, est-il un homme bipolaire, est-il un homme habité par le diable, est-il un homme à qui on a enfoncé dans le fondement.
Ah, tu comprends qu'il y a l'épisode de South Park, là.
Un tube à dégueuler du pétrole de manière assez crade. On a bien cru qu'il allait recommencer, hein, d'ailleurs. Mais voilà, il est habité, en tout cas, par le démon du Fiend. Là, hein. Il est en train de se passer quelque chose avec le Fiend. Ils en mettent du temps à ce que ça vienne. Hein. Ils prennent leur temps. Hein. L'avant, on a... Ok, là, ça fait... Je crois qu'on en est la 4e ou 5e semaine où c'est un segment avec Randy Orton backstage, avec le sempiternel d'Alexa Bliss dans son pentacle. Ils prennent vraiment leur temps.
WrestleMania, c'est bientôt et pas bientôt en même temps, donc et qu'ils ont pas grand chose à raconter. Ouais, ils prennent ça s'étire. Et encore, on a une pause dans tout ça en plus, c'est ça le pire.
Oui.
Et c'est pas été. Randy Orton autour du Rumble était occupé avec Edge et voilà, donc là on y revient seulement et encore c'est vrai que ça traîne un petit peu en longueur. Moi j'aime beaucoup, hein, et évidemment c'est inévitable, inéluctable, et moi j'ai envie d'avoir un match original où il n'y a pas juste des asticots entre Randy Orton et Bray Wyatt ou The Fiend en tout cas. Mais c'est vrai que bon, c'est moyennement inspiré.
Je me demande si ça va pas nous emmener sur un match cinématique à WrestleMania, ce Randy Orton versus The Fiend. J'ai du mal finalement avec l'idée de faire revenir The Fiend dans un match traditionnel à WrestleMania. Je crois bien qu'il va pas revenir du tout d'ici WrestleMania. Il sera pas à Fastlane. Je les vois pas en fait faire interagir véritablement le Fiend.
Et
un match cinématique, ouais, me paraîtrait une option pas mal.
Tout l'angle d'Alexa Bliss qui, grosso modo, hein, essaye de faire revenir The Fiend à la vie, quoi, sur Terre, on va dire. Comment faire venir un méchant 15 fois qui se fait tuer, qui se fait dans Vendredi 13 ou ce genre de film d'horreur où ils reviennent toujours. Me fait même espérer qu'on assiste à WrestleMania dans un décorum gothique invraisemblable, au milieu d'un pentagramme immense, voilà, avec des flammes et du sang et des limaces et des hurlements de terreur au retour, qu'on assiste à une espèce de messe diabolique pendant WrestleMania, le retour de The Fiend. Un match cinématique, effectivement, avec Randy Orton, dans un truc complètement gothique et complètement improbable, puisque, effectivement, Alexa Bliss promet qu'il va payer pour tout ce qu'il a fait, et ça ressemble beaucoup à l'angle qui a été utilisé avec John Cena, le côté vraiment, on va refaire l'histoire et faire payer, en fait, faire payer à l'adversaire.
Ouais, le seul truc que je trouve un petit peu dommage dans tout ça, c'est que Alexa Bliss, du coup, est complètement écartée de la compétition côté division féminine. À Raw, ça serait pas du luxe quand même d'avoir une catcheuse comme elle, quand même impliquée dans les combats féminins. Donc voilà, elle est mise totalement à 100% à fond dans cette rivalité Fiend-Orton. Je regrette quand même, quoi, de ne pas l'avoir un peu plus in-ring.
Ouais. Mais ça, je veux te dire, c'est pas tant un problème pour elle que pour la division féminine.
Oui, ah, totalement d'accord.
D'ailleurs, la division féminine, alors on y arrivera juste après, puisque ce fameux match entre Miz et Lashley, bah, il n'a pas duré trop longtemps, puisque le Miz a fait ce que chaque heel devrait faire dans un monde un peu plus réel que celui de la WWE, c'est que au son de la cloche, il est parti en courant et
Et
qu'il
oui.
a perdu par disqualification, par coup des comptes à l'extérieur.
Le Miz connaît le règlement. C'est un très bon heel. Il connaît parfaitement le règlement.
Oui. D'ailleurs, oui, je suis à moitié d'accord avec Raphaël qui disait qu'il était un peu déçu par le peu de stratégie dont fait preuve le Miz depuis qu'il est champion. Là, il nous a fait la preuve qu'au contraire, effectivement, c'est un couard, il se sauve, mais il le fait bien. Là, il connaît les règles.
Ouais, et puis il se dit qu'il est, voilà, il connaît les règles, il est au milieu de Raw, ça lui fait encore gagner du temps et c'est une course contre le temps. Il a le titre, donc ça fait une semaine qu'il a ce titre et donc il cherche tous les moyens possibles et inimaginables qui sont à sa disposition. Et le règlement en fait partie. C'est légitime, monsieur.
Bon, ce qui est moins légitime, c'est la place que prend Shayna Baszler et Nia Jax dans Monday Night Raw. Mais bon, malheureusement, comme tu l'as dit, y a pas grand monde dans la division féminine. Et bah, Charlotte Flair, elle s'est débarrassée de Shayna Baszler en combien de temps?
Oh là 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 là. Faut vraiment qu'on en parle. 2 minutes 55.
Aïe, 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 aïe. Ah là là, vous vous souvenez Shayna Baszler? Moi, je m'en souviens pas. C'est il y a très longtemps. Hein. Je sais pas qui c'est elle là qu'ils ont mis là, mais.
Il fut un temps où elle était dominante, mais recherchée
Un
dans les...
poster.
Faites-nous du fact-checking.
Aïe 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 aïe. Bon, Natural Selection en moins de 3 minutes et puis emballé, c'était pesé.
Ouais, c'était vraiment expéditif là. Il n'y avait pas d'histoire. Après, ce qui va être plus intéressant, c'est plutôt finalement la promo de Charlotte.
Oui. Qu'est-ce
Finalement,
qu'elle dit, Charlotte?
c'est ce qu'elle aura expliqué finalement juste au préalable avant un match effectivement qui pour le coup ne sera pas une montagne russe d'émotions comme elle a pu le dire pendant sa promo quoi. Parce que enfin, elle se replace Charlotte de manière officielle dans l'endroit qu'elle ne quitte quasiment jamais, c'est-à-dire le main event quoi. Puisque voilà, Lacey Evans, elle a dégagé. Bianca Belair, elle est partie vers Sasha Banks. Donc qui c'est qui est challenger au titre d'Asuka, hein, je vous le demande, hein, qui c'est? Personne. Eh ben si, ça y est, maintenant il y a quelqu'un. Il y a Charlotte, quoi. Donc voilà. Asuka, elle est blessée. Donc fatalement, elle fait cette promo en étant seule. Mais pas de surprise là-dedans. Et puis j'ai envie de dire, de toute manière, au vu de l'état du roster de Raw au niveau féminin. Bah, il n'y a rien de plus logique que de revoir Charlotte en number one contender, déjà officieuse, et puis officielle, je pense que ça ne serait tardé.
Oui, voilà, c'est qu'on aime ou qu'on la déteste, bah voilà, hein, c'est
Ouais.
légitime, hein, c'est logique, quoi, effectivement. Et puis Charlotte versus Asuka, la revanche, on va dire, bah écoute, j'achète, comme toi.
Ah, mais moi, même si je reste sur mon booking de la semaine dernière, et voilà, j'espère, là, on aura eu quand même encore une ou deux vignettes de Rhea Ripley pendant ce Raw,
Ah oui.
qui va arriver, je pense, d'ici la semaine prochaine, ou peut-être d'ici Fastlane. Et je reste fixé sur mon objectif, le triple menace, Ripley, Flair, Asuka. Ah, ça me plairait fort à WrestleMania.
Ah ouais, non, non, tu as raison, oui. Épissons un peu tout ça avec la montée d'une jeune catcheuse très prometteuse qui va tout détruire sur son passage. 2021, l'année de la jeunesse. Les jeunes prennent le pouvoir.
Voilà, une rookie au firmament, ça serait beau, ça.
Ah ouais. Tu sais ceux qui sont pas au firmament?
Ah, j'ai des doutes. Non, en fait, j'en ai pas.
Retribution, ça te dit quelque chose?
Oh oui, ça me dit quelque chose. Oui.
Ça...
On en parle depuis août 2020. Hein. Donc, ça commence à me dire quelque chose, ce nom.
Aïe, 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 aïe. Ouais, bah, j'aimerais ne plus trop en entendre parler, moi, finalement. Hein. Retribution, notre flop de l'année du côté de la division tag team. Ce soir, ils avaient un match contre le champion US, Matt Riddle, et la Lucha House Party. La Lucha House Party, Riddle, qui ont battu Retribution, qui, une fois de plus, n'a été incapable de remporter un match, qui énerve Ali. Qui dit bah écoutez si c'est comme ça moi je vais me débrouiller tout seul je m'en occupe donc il provoque Riddle dans un match et aidé par Retribution, comme quoi il a besoin de l'aide de ses Golgoth, il chope la victoire inattendue face à Riddle et du coup se place probablement comme un contender pour autour de ce titre, ce joli titre secondaire qui est le titre US. Bon bah voilà. Hein.
Ouais.
C'est le titre US. C'est Retribution, c'est Riddle, c'est tout ça, c'est la low card.
Alors écoute, je vais essayer de mettre un petit peu de positivité dans cette affaire.
Ah oui, je veux bien, aide-nous.
Parce que ça va être dur de sortir du positif dans un premier match qui aura duré 2 minutes 20 et le non-title match derrière qui aura suivi, qui aura duré 3 minutes 20. Mais il y a eu plusieurs éléments que j'ai bien aimé finalement, c'est que... alors bon, déjà, les Lucha House Party, sur les 2 minutes 20, je pense que c'est eux qui ont fait 1 minute 50. Et j'ai adoré leur move de fin, je tiens quand même le signaler. Mais vraiment, le move est génial avec un Lince Dorado en feu, qui fait toute la dernière minute des 2 minutes 20 dans le ring. En feu, qui démonte tout le monde. Et Grain Metallique qui va monter sur les épaules de Dorado, debout sur les épaules, et qui va coller un méga splash elbow aérien sur Slapjack des familles. Franchement, c'était la double team comme j'aime, quoi. Donc derrière, ça fait quoi? Derrière, ça fait Retribution qui perd pour la 1650e fois depuis qu'ils sont là, depuis août. Derrière, Ali s'énerve et enfin, Ali, il fait quelque chose. Et ouais. Ali, il défie Riddle quand même. Et il va quand même aller gagner un match en 3 minutes 20 face au champion US. On se dit, ah tiens, ils font quelque chose avec Retribution. Ça y est, Ali fait quelque chose, ça y est. Ils sont lancés dans quelque chose. Alors, ils sont lancés dans la mid-card du titre intermédiaire de Raw. Mais tu vois, je trouve qu'il s'est passé quelque chose. Alors, je ne dis pas que ça m'emballe plus que ça. Mais en tout cas, je trouve que c'est le premier vrai effort fait depuis des mois et des mois et des mois. Donc, je me dis que aller une rivalité Riddle-Ali pour le titre US, pourquoi pas, sachant que pareil, encore une fois, sur le titre US, il pourrait y avoir encore bien un ou deux, voire trois mecs qui pourraient venir un peu chatouiller tout ça et créer un environnement, tu vois, à la bagarre pour le titre US.
Ouais, bah ouais, oui, non, mais t'as raison. Je l'aime bien Ali dans le fond, toi, et je suis désolé pour lui, hein, c'est pas cool ce qui lui est arrivé, mais...
Alors après, ouch pour Riddle, par contre, hein, t'es champion US et tu perds quasiment ton premier match depuis la conquête de ton titre en 3 minutes, quoi, face à un clan qui avait fait que perdre pendant des mois. Donc ça, c'est un petit peu difficile pour Riddle, mais bon, il s'en remettra. Hein.
Welcome to Stamford, bébé. Ça, c'est typique, le booking. D'ailleurs, ça fait criser ringside à chaque fois.
Ah oui.
Booking typique du champion à la WWE, surtout sur les titres secondaires. Alors là, t'as chopé un titre, la galère arrive. C'est comme quand tu gagnes la mallette du Money in the Bank. La galère arrive. Tu vas pas beaucoup gagner. Tu vas perdre tout le temps juste pour booker des matchs de championnat derrière. En fait, t'as l'impression qu'ils savent pas faire autrement que de faire perdre le champion pour booker un title shot derrière, quoi. Alors que tu pourrais trouver... Enfin, t'as mille et une façons, y compris la tricherie, toi. Mais au moins, fais gagner un petit peu ton champion, là. Fais-le gagner quelques semaines avant de perdre, quoi. Montre que, voilà, il est legit et qu'effectivement, il a pas démérité. C'est vrai que le mec... Oh là, je suis... Il l'a pas vu venir celle-là, mais bon, comme tu dis, il y a de l'espoir pour Ali, et puis voilà, tout ce beau monde va être à sa place. Et quid de Kofi Kingston hein, aussi, on n'oublions pas qu'on espérait quand même un petit peu de continuer un petit peu l'histoire avec Kofi, donc pourquoi pas aussi mettre Kofi dans ce titre US, autour du titre US, peut-être. Ah,
Kofi aussi, quand il reviendra, peut-être qu'il serait intéressant aussi dans ce débat sur le titre US, ça pourrait nous offrir des trucs assez sympas, quoi.
Ouais, carrément.
Moi, je trouve qu'au niveau, je ne sais pas ce que tu en penses, mais au niveau roster, Arrow du côté masculin, franchement, il y a de la matière. Ils peuvent pousser des mecs, ils peuvent faire des trucs sympas, des rivalités peut-être un peu plus approfondies sur les titres intermédiaires. Alors, regarde, autour de l'Intercontinental, de Biggie, il y a du monde qui tourne autour, entre Nakamura, entre Corbin, entre Sami Zayn, tu vois. Et le titre intermédiaire, faut que ça pullule, quoi. Faut que les mecs autour, ils aient envie, quoi. Et faut aller le chercher, le champion. Moi, j'aimais bien, tu vois, les Open Challenge de Cena. Le titre US, parfois, il a été super bien utilisé, quoi. Ou des fois, il est donné en mode indestructible quand Rousseff l'a été. Ou alors, t'as ceux qui ne défendent jamais, comme l'a été Dean Ambrose, par exemple, qui ne défendait jamais.
Voilà.
Jamais.
Ouais.
Là, pour le coup, le titre en ce moment, ces dernières années, il tourne quand même, il change pas mal de mains. Là, maintenant, c'est Ali qui est lancé, mais il y a moyen. Je pense qu'il y a de la matière.
Ouais, il y a de la matière. Tu dis, on a quand même une bonne section low-card, mid-card hein, autour de ces titres-là.
Ouais.
Donc, faut que ça se bagarre.
Damien Priest dans la title picture du titre US, ça serait pas dégueu, tu vois, ça serait pas déconnant, quoi.
Ah, bah surtout qu'il roule sur la low-card, donc c'est carrément, tu vois ce que je veux dire, il est dans son élément, là, la low-card. Une fois que tu as roulé sur la low-card, tu peux te retrouver effectivement prétendant à ce titre qui est qui est le titre par défaut qui est souvent ton premier titre quoi, enfin à WWE c'est pas systématique, mais à moins que tu sois un Golgoth avec une grosse hype, on teste souvent quoi, ils sont nombreux à avoir touché le titre US pour quelques semaines et puis après tu passes à autre chose. Mais
d'ailleurs sur le marché de la viande, Damien Priest au passage c'est 1m96 et 114 kg de barbac.
Tu vois pas toi? Non, mais c'est des containers de viande là qui.
Le mec, tu veux pas l'avoir à la cantine le midi avec toi, hein, parce que là, c'est pas possible quoi.
Il bouffe dans ton assiette.
Il bouffe tous les plateaux au repas à la table, non, ça le fait pas quoi.
C'est l'heure du main event, le vrai. Hein. Le Miz, il aboie les pleurs nichés auprès de Shane O'Mac en disant qu'il mérite d'être un grand champion. C'est un grand champion, il faut qu'il aille à WrestleMania. Donc il va un peu pleurnicher auprès de Shane. Shane n'a pas l'air de trop l'émouvoir plus que ça. Mais par contre, il y a quelque chose, une petite surprise. Il y a une petite surprise, Shane. Il a préparé une petite stipulation pour cette défense de titre du Miz, sa première défense de titre. Ce sera ce soir Bobby Lashley contre le Miz dans un Lumberjack match.
Les bûcherons !
Et tout cette belle low-card dont tu as parlé, eh ben, elle arrive, elle revient. Et il y a même Braun Strowman qui était là. Sacré bûcheron, lui, pour la peine. Et donc, on va avoir un match où les deux belligérants seront entourés de tout le roster quasiment masculin, actif, du show rouge. Alors Miz, il tente rapidement une petite attaque là avec le titre, lui donner un coup de ceinture, il me semble qu'il essaye de commencer par ça, hein. Ce qui aurait provoqué sa disqualification d'ailleurs.
Bah, exactement.
Ouais. Et ouais. Bobby Lashley, donc toi, plus malin, hein, je pense que Raphaël n'a pas bien regardé toutes les filouteries du Miz. Hein. Je pense qu'il n'a pas bien vu tout ça. Bobby Lashley qui chope le Miz dans un coin, et Lashley est énervé parce qu'il se fait attaquer par les bûcherons à un moment donné, hein, donc ça excite, ça énerve encore plus la bête, donc grossière erreur. Il court après le Miz qui essaye de se sauver, il essaye de convaincre Drogulak et Elias. De l'aider, mais Gulak, il le renvoie, et puis du coup, il se prend une grosse clothesline, il se fait tabasser, énorme choc slam, je crois que là, il a pu toucher les étoiles pour la dernière fois, le Miz, full Nelson, et alors là, le Miz, je pense qu'il a dû s'évanouir 15 fois, parce que Lashley l'a secoué dans tous les sens, je pense que les cervicales, elles ont pris cher, hein. Et le Miz qui abandonne, qui tape. Et nous avons un nouveau champion à la WWE pour la première fois. Champion WWE, mesdames et messieurs, Bobby Lashley.
Bravo!
Magnifique. Et applaudissements du vestiaire, du roster. Bobby Lashley qui en plus en remet une couche, qui a rechoppé le Miz. Il avait encore toute l'excitation, tout le momentum qu'il avait, donc il s'acharne sur le pauvre Miz, MVP qui regarde tout ça, bien content de son coup, il faut dire, il y a de quoi, MVP là, qui a porté son poulain jusqu'en haut, et Bobby Lashley qui règne dorénavant sur le royaume du show rouge.
Le Hurt Business règne sur le royaume du show rouge. Le Hurt Business dirige le vaisseau amiral. Je crois que là, c'est clair, c'est net, c'est précis, et c'est sans bavure. 3 minutes 05 hein, par contre hein. Petit, tout petit tout petit main event pour ce Monday Night Raw avec quand même le championship. Après, pas de surprise. En aucun cas, je m'attendais effectivement soit une disqualification par je ne sais quel moyen qu'aurait trouvé le Miz, soit un squash match parce que c'était pas possible autrement. Il y a un tel différentiel entre Lashley et The Miz que ça aurait vraiment pas été cohérent de quoi que ce soit. Donc, on pouvait s'attendre qu'à un final comme ça, comme celui-là, quoi. Bah, le Miz, hein, une semaine, hein, mon bon patron, hein, une semaine, hein, il aura tenu la ceinture. Hein, ça aurait été compliqué pour lui.
Oui, hein. Par rapport à son premier run qui avait duré 5 ou 6 mois, quelque chose comme ça.
Ouais, 5 mois.
Ça lui pendait au nez. Hein. Au mieux, il allait jusqu'à Fastlane, mais c'était peu probable.
Ouais, pourtant, moi, je faisais partie de ceux qui pensaient effectivement que ça irait jusqu'à Fastlane, cette affaire. Je pensais que, en plus, tout le fil rouge, je me suis dit, bon, bah, du coup, ils vont trouver une entourloupe pour que le match ait pas lieu, ça va être remplacé par quelque chose. Ou il va y avoir pendant un moment, j'ai pensé à un tag team match, tu vois. Et je me suis dit, ah, ils vont peut-être finalement faire un tag team, il va y avoir une embrouille de Morrison et du Miz. Ou un handicap match, parce que depuis le début de l'année 2021, ils adorent nous mettre des handicap matchs à Raw. Donc là, ça n'a pas été le cas. Donc finalement, écoute, clean, hein, fair and square. Encore une fois, l'alignement de Bobby Lashley à la fin du match, c'est presque compliqué, quoi, parce que on se dit merde, et il est un peu en train de repasser face. Tout le monde vient le saluer, etc. Celebration time, come on! Voilà, victoire de Bobby Lashley, écoute, c'est fair and square, c'est propre. Moi, ça me va, j'ai fait un petit sondage encore une fois sur cette affaire. Apparemment, écoute, les Twittos catch-uppers sont plutôt d'accord avec moi parce qu'ils sont à 63%. Gros oui pour le nouveau champion. Grognon à 27%, tu vois. Et 9% qui sont mitigés, pas sûr.
Mitigés, mi-figue, mi-raisin et remitigés.
Voilà. Okay.
Là où je te rejoins, c'est effectivement... Moi aussi, j'aurais bien vu ça courir jusqu'à quelques semaines encore et jusqu'à Fastlane, parce que tu pouvais obtenir le même résultat à Fastlane, tout en construisant peut-être un chouïa un petit peu plus de momentum et de frustration pour Bobby Lashley. Parce que moi, j'avais bien aimé l'idée que Miz arrive semaine après semaine à entourlouper, à échapper en fait à la colère du Golgoth. Et je pense que la WWE a cédé à la facilité en se disant bah, pourquoi attendre et autant filer tout ça à Bobby Lashley. Après, tout dépend du plan derrière, puisque, comme tu l'as dit, au sorti de cet épisode de Monday Night Raw, quid de l'alignement de Bobby Lashley? C'est d'ailleurs ce qui a un petit peu gêné Ringside et Raphaël, c'est que, comme tu l'as dit, c'est un gentil monstre, mais si on doit refiler Drew McIntyre dans les pattes de Bobby Lashley, il ne faut pas que Bobby Lashley soit gentil, hein, il faut que Bobby Lashley soit très 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 très, très méchant.
Eh oui.
Et là, pour l'instant, t'as juste envie. On nous montre qu'il faut être content pour lui. Donc, c'était un petit peu étrange quand même. Toi, t'étais content pour le gars, mais c'est vrai que dans la façon dont c'était monté, en termes d'émotion, on va dire, toi, de ce que tu dois ressentir, on était dans le trouble. On était dans le trouble. On était troublé. Émotion troublée, toi, j'étais. Je me suis dit, ah. C'était, je ne savais pas trop quoi ressentir à ce moment-là. J'étais content pour l'homme, pour le Bobby. Effectivement, il a le gabarit et il a l'air d'avoir connu connu un parcours qui le prédestinait à être champion à WWE. Mais voilà, en termes de timing, de faire de construction, là, c'était un petit peu étrange. Mais bon, ça y est, c'est lui le champion.
Le Hurt Business est quand même une belle réussite. Les a tout en haut en 2020 et ma foi, quel début d'année 2021, quel premier trimestre de la part du Hurt Business. Hein. On est franchement, on est dans du très très lourd là. Hein. Et là, il y avait une belle photo sur Twitter avec MVP assis entouré des trois mecs avec toutes les ceintures là. Ça avait de la gueule.
Ouais. Non, là-dessus, je te rejoins hein, sur la faction et. C'est super bien construit et le mec, il a chopé le titre US et après il est monté jusqu'au haut pour choper le titre. Ça, c'était super bien écrit. Hein. Franchement, il n'y a aucun souci là-dessus. Là, c'est vraiment une grosse, grosse réussite de cette année, enfin depuis 2020. Hein.
C'est Bobby Lashley, le vrai CEO de Monday Night Raw.
Et le mec, il a déjà. T'es déjà en train d'écrire les dialogues pour la semaine prochaine. Bon, bah, écoute, si tu veux bien, mon tonton, c'est l'heure du top du flop note.
Voilà, nous arrivons à l'étape ultime.
Bon, écoute, alors, oui.
Vas-y, dis-moi. Tu veux qu'on commence de notre. Tiens, on va commencer avec nos collègues chroniqueurs. En particulier le papy, parce que le Raphaël, il s'est pas foulé, il nous a pas mis le top flop note, il nous a mis qu'un avis, la vache.
Ouais.
Quasiment en entier, que je suis en train de voir. Allez, on va parler du papy quand même. Alors, le papy, lui, il nous a mis en top le sacre de Bobby Lashley, tout simplement. En flop, Retribution, de manière totalement gratuite, mais apparemment, il était un peu à court d'idées. Il a trouvé que le match Sheamus-McIntyre était superbe, aurait mérité un top bis. Voilà, que apparemment, tout a l'air de lui avoir plutôt bien plu, quoi, hein, globalement. Lui aussi, il reste un peu interloqué sur l'alignement de Bobby Lashley avec tous les copains en ringside qui lui font une ovation, quoi. Mais il a trouvé ça très sympa. Voilà.
Bonne ambiance.
La bonne ambiance. On sent que Mania approche avec Shane qui squat, Charlotte qui s'intéresse de nouveau à la division féminine. Bref, la note pour Papy, c'est du 3,5. Très belle note de Papy, ma foi.
Très belle note. Ah oui, oui, oui. Ah oui, c'est une belle note. Hein.
Bon, Raphaël, vous l'aurez compris, hein, notre Raphaël hier, lui, il est ronchon sur Strowman. Hein, voilà, il n'arrive pas à se faire une opinion. Irem vous a déjà à peu près tout dit, ce qui nous explique sur le Miz. Par contre, on va vous le citer. Il y a 10 ans, le Miz n'était pas plus haut sur la carte quand il est devenu WWE Champion. Mais il l'est resté par le vice et l'intelligence. Pas du tout aimé que 10 ans après, il en soit rendu à dire qu'il a la gastro pour pas aller à la piscine. Pourquoi pas un loblo pour une DQ? Pourquoi pas attendre Fastlane? Il va sûrement réclamer un rematch, puis on repartira sur le rematch de Drew, toujours excellent. Mais cette différence de niveau me déplaît, ce squat me paraît un peu trop facile. Et puis Lashley, MVP, ils sont toujours un peu heal tout de même. Alors ça, je suis tout à fait d'accord. Drôle d'ambiance, je trouve. On revient toujours à l'ambiance, mon bon Yaren.
Problème d'ambiance.
Voilà, il y a ceux qui sont ambiancés et puis ceux qui ne le sont pas. voilà, et concernant Ringside qui nous a mis un petit mot rapide, merci Ringside de nous avoir épargné un gros pavé. Mais pour lui, Braun Strowman va vers Shane O'Mac à Mania et il rejoint Raph sur l'ambiance. Bizarre, Aaron, c'est Lashley qui n'a plus grand-chose d'un heel. Alors là, ils sont le même problème avec l'ambiance. Par contre, il y a pour eux deux avis, deux ambiances sur Bobby Lashley.
Ouais, effectivement. Bon, écoute, je crois que j'ai trouvé un angle pour le titre de notre review. Hein. Ça va parler d'ambiance.
Très bien, très bien, très bonne idée. Et puis, bah, alors, me concernant maintenant pour mon top flop note of the week, je vais donner mon top au match Drew Sheamus. Vraiment, j'ai adoré. 22 minutes 50 de pur bonheur. Voilà, de la viande, de la barbac, du kilo en veux-tu, en voilà, de la voltige malgré ses gabarits. Tout était là, les mecs ont balancé leur moveset habituel, mais totalement raccord, une superbe alchimie, le plus beau match de catch pour moi depuis le 1er janvier 2021, tout catch confondu de ce que je peux suivre, en tout cas moi. Voilà, c'était magnifique, allez voir ce match, n'en jetez plus. Mon flop, j'hésite, parce que la semaine dernière, je l'ai donné à la division féminine, et ça m'ennuie de le redonner à nouveau. À la division féminine, mais du coup, bah moi, j'ai pas de moment vraiment. J'ai trouvé que c'était un row assez équilibré, c'était plutôt sympa globalement. Écoute, je vais le donner à Braun Strowman, mon flop. Voilà, donné pour cette utilisation bancale dont on a longuement parlé tous les deux déjà. Voilà, c'est pareil, cet alignement pas très clair. Puis ça nous fait venir chez nos Mac avec le son à fond, tout ça. Donc je suis pas super client de ce truc. Adam Pearce, il a pas besoin de catcher. Et voilà. Et si c'est pour la raison, c'est Braun Strowman. Je trouve que c'est vraiment faible. Il y a suffisamment de monde dans le roster comme ça pour réussir à trouver une rivalité valable à Braun Strowman. Donc là, j'ai pas aimé comment ça s'est passé. Donc voilà, mon flop ira au grand Braun. Et puis ma note, je vais mettre une note plutôt bonne. Changement de titre dans le main event de Monday Night Raw, ça se passe quand même pas super souvent. S'il y a des fact-checkers, vous pourrez nous dire combien de fois c'est arrivé dans l'histoire de Monday Night Raw. Je vais lui donner un... Je pense que je vais faire hurler parce que j'ai vu des très mauvaises critiques sur ce Raw. Mais moi, je vais donner un... En plus, je vois Papy a donné un 3,5. Et ben, je vais donner un 3,25, mon bon patron.
Eh ben écoute, voilà, quand on aime, on ne compte pas.
Exactement.
Mon top, moi je tu sais que j'aime bien varier, ne pas, voilà, pas donner le même top que les copains, j'aime pas copier. Mais là, franchement, je suis désolé, hein, mais cet opener, ce match-là...
Ouais. Non mais ouais, non mais là...
Faut pas bouder son plaisir, et j'ai pris énormément de plaisir. Pour moi, c'était un match de WrestleMania.
J'aurais adoré le vivre live. Oh là là, à Paris, ouais. Paris, un Drew versus Sheamus.
Ah oui, carrément, le mec. Moi, je lui dis, c'est un match pour WrestleMania, et toi, tu me dis que c'est un match pour Bercy. D'accord. Oui, ah, je comprends.
C'est là où j'aurais le plus de chances de le voir.
Oui, oui. Quoique, cette année, je suis pas sûr. Hein.
Non, là, c'est
situation. Et mon flop, eh ben, écoute, moi, je vais pas me gêner. Je vais le donner à Shayna Baszler. Voilà, qui... Voilà, qui perdent en deux minutes là, face à Charlotte, sans vraiment en plus qu'il y ait de bordel, enfin toi qui justifie vraiment, elle s'est juste pris un Natural Selection dans la tronche et c'était fini, quoi. Donc c'est assez lamentable. Ma note, eh bien, écoute, moi j'ai trouvé que c'était également un très bon épisode, avec une fois de plus un fil rouge, ce petit compte à rebours là, oui, on ne peut pas le faire toutes les semaines, mais là c'est une petite variation. MVP qui est au taquet, ce gros match opener, enfin vraiment c'était un... Voilà, après des first contenders qui se déclarent de façon naturelle ou forcée, mais tout se met en place. Bon voilà, c'était pas grandiose, mais il y a quand même eu des très 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 bonnes choses. Du coup, moi, bah, écoute, je vais lui donner un gros 3. Un gros 3, hein.
Non, ouais,
gros 3. Allez, j'ai bien aimé cet épisode. Ouais.
Ça lui fait un 6,25. Voilà, un 6,25.
Ouais, moyenne, c'est ça.
Nitro, c'est une très bonne note.
Ouais.
Les ratings, c'est 1 884 000 spectateurs. Une petite perte de 6 000 spectateurs par rapport à la semaine dernière.
Mais ils étaient où ces gens-là? Je me suis dit, est-ce qu'il n'y avait pas du... Tu sais, avec toutes ces histoires de compte à rebours et de rendez-vous, il n'y avait pas de la grosse concurrence à la télé, là, parce que... Tu vois ce que je veux dire, hein, quoi, donner rendez-vous à telle heure, à tel endroit, ça donne vraiment cette impression de... attention, hein, ne zappez pas, parce qu'à 9h, il y a le match. Et puis, en fait, à 9h, oh, ben non, en fait, ce sera à 10h. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, cela dit, ils n'ont plus de NFL en face, là.
Ben non, je sais pas ce qu'il y a eu.
Ça file un coup de main, quand même.
Peut-être Top Chef ou un truc comme ça. Le Top Chef américain, évidemment.
Bien sûr.
Bon, ben, écoutez, en tout cas, le podcast qui transpire le catch, c'est toujours Catch Up. Vous pouvez toujours nous retrouver sur toutes les plateformes audio de podcast. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, PodCloud et bien d'autres. Mais également YouTube. YouTube, c'est là où vous pouvez également nous partager votre top, votre flop et votre note dans la section commentaires. N'hésitez pas à vous. Les réseaux sociaux, c'est reparti, on vous l'a dit. Instagram avec Raphaël. Commande qui s'en occupe. Ah, on lui a laissé les clés à Marquis. Marquis Marco, fais pas le con, on veut de l'abonné. Mais surtout. Salut, la grosse nouvelle, c'est Twitter qui renaît de ses cendres, Catch Up CDC, avec Tonton Chris qui découvre les technologies des millennials. Attention, il va y avoir du grabuge, Tonton.
Exactement, vous pouvez me retrouver d'ailleurs aussi avec le compte Catch Up à @TontonChris71, je crois, ou c'est @TontonChris tout court, je sais même plus. J'ai du mal avec les nouvelles technologies, j'ai du mal. Je vais vous retrouver ça, mais...
C'est quoi, tu balanceras mais, ça dans les commentaires de la vidéo YouTube?
Ouais, exactement, ouais. Je vais vous balancer des sondages, de toute façon. Je vais vous balancer, on verra. On parlait aussi des pronos, il y a pas mal de gens sur Discord qui nous parlent de faire des pronos de manière peut-être un peu plus officielle, etc. Donc il y a moyen. Écoutez, on est encore peu nombreux sur Twitter, hein. On est 276 abonnés pour l'instant. Allez, @TontonChris71.
Et donc, vous pouvez aussi envoyer des textos à Tonton au 06 84 28 17 32.
Exactement.
Ouais, pas de 07 hein, pour Tonton. Donc, n'hésitez pas, hein, vous l'avez bien noté, 06 27 18 43 28. Voilà. Salut les pauvres gens qui vont recevoir des trucs random. Vous envoyez coucou Tonton, tu fais quoi ce soir? au numéro de téléphone que je vous ai partagé et il vous répondra tout de suite. Allez, merci à toi, tonton, pour ta présence et tes chiffres toujours aussi précis.
Merci à toi, El Patron. C'était un plaisir de reviewer un bon Monday Nitro.
Et on remercie évidemment tous nos auditeurs de nous suivre chaque semaine. On se retrouve très bientôt pour l'analyse du show bleu Friday Night SmackDown. D'ici là, on vous souhaite évidemment à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Salut, Irem. Salut, Paul le catcheur.
En vrai, c'est quoi là, ton 06?
Jamais je le donnerai! Jamais!